Et si nous redevenions humains? Sophie vous invite à questionner vos croyances pour aller plus loin dans votre quête de conscience au service du vivant. Ce podcast est fait pour encourager les chercheuses et les chercheurs en humanité, leur donner des clés issues de l'expérience concrète de Sophie dans les domaines de la parentalité, des collectifs et de l'accompagnement de l'enfant. Bonne écoute!
Bonjour, faut-il éduquer les enfants à la sexualité? Alors, ma réponse à moi, c'est évidemment non. Bien sûr que non. Déjà, vous savez que j'ai du mal avec le mot « éduquer » à quoi que ce soit, mais encore plus sur des sujets comme cela. Non seulement je ne suis pas en accord avec ce projet éducatif, mais en plus je le trouve dangereux. Et je vais vous expliquer en quoi je le trouve dangereux pour nos enfants. J'ai consulté les livrets d'Evras, donc l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui sont actuellement à l'œuvre en Belgique, ce qui a créé une rentrée assez houleuse, puisqu'il y a des parents qui étaient très mécontents de cette mise en œuvre d'un projet d'éducation à la sexualité pour leurs enfants et qui ont manifesté leur désaccord. Ce projet, de toute évidence, est aussi celui de la France et sans doute d'autres pays européens. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de soucis et de préoccupations que nous devons accueillir cette réalité. Si je m'appuie sur mon expérience, donc ça fait plus de 25 ans que je travaille ou j'ai travaillé avec des enfants, les questions relationnelles, affectives et sociales, ainsi que les questions liées à la sexualité, viennent à l'enfant de manière complètement naturelle et bien sûr s'adaptent au milieu dans lequel l'enfant vit. J'imagine assez bien que c'est la complexité de notre monde qui pousse certaines personnes autorisées, qui sont à des niveaux décisionnels des programmes de l'État, de proposer une éducation à la vie relationnelle, affective et sociale. Et c'est sans doute également en réaction à des problématiques sociétales qui se posent aujourd'hui plus qu'hier, qui sont liées à la complexification de ces relations dans des logiques qui sont différentes de celles que nos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents ont vécues. Bien sûr, c'est normal que nos sociétés évoluent. Aujourd'hui, il y a plusieurs modes de vie affective et sexuelle. Il y a des thèmes et variations sur le genre qui n'existaient pas auparavant. Il y a du coup aussi des violences et des discriminations qui naissent de ces nouveautés, de ces différences aussi. Et ça aussi, c'est préoccupant. Et à partir du moment où il y a de la souffrance, où il y a des êtres qui sont en difficulté, c'est normal de s'en préoccuper et de voir comment on pourrait améliorer les choses. Voilà, là, je prends vraiment la question par ce que j'imagine être le plus sincère sentiment ou la plus sincère intention de ceux qui voudraient servir réellement et concrètement le bien-être relationnel et affectif des enfants et des jeunes qui grandissent, des adolescents, dans notre monde. Je ne suis pour autant pas persuadée que les fonctionnaires ou les consultants qui ont rédigé les livrets à destination des enseignants ne nourrissent que cette intention supérieure concernant ces thématiques-là. Et après tout, peu importe, parce que le résultat est là. Il est demandé aux enseignants aujourd'hui d'intégrer dans leur programme de cours une éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle de nos enfants. Et ça, pour moi, ça n'est pas acceptable parce que nos enfants doivent conserver leur liberté sur ces plans-là, leur liberté d'être, de découvrir, d'agir, de se poser des questions par eux-mêmes quand c'est leur moment et non pas leur imposer et intruser ce champ délicat de la relation et de l'affectif. Dans mon histoire et dans mes observations par rapport aux enfants, j'ai vu évidemment que ces questions-là émergent au fur et à mesure que l'on ouvre les yeux et que l'on grandit, que notre maturité transforme notre corps, que nos centres d'intérêt évoluent, changent, maturent. Et ça, c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Aujourd'hui, Les enfants et les adolescents ne sont pas en carence d'informations sur ces sujets. Ces sujets-là sont accessibles. Bien sûr, le danger, le risque est sans doute ce que l'on cherche à éviter ou à canaliser à travers un programme éducatif, c'est que dans les médias que les enfants et les adolescents utilisent, il y a tout et n'importe quoi. Et qu'il est possible de découvrir des informations sur ces sujets sur des sites ou via des canaux qui sont très aléatoires et qui ne permettent pas forcément à l'enfant de se faire une idée épanouie et appropriée de ce qu'est la relation, de ce qu'est la sexualité. L'information concernant les réseaux sociaux et les médias auxquels ils ont accès est évidemment totalement nécessaire et pendant toutes les années où je me suis occupée d'enfants et d'adolescents, on a beaucoup parlé de comment l'information circule sur Internet, dans les réseaux sociaux et qu'est-ce qu'on peut faire de cette information, comment on peut la traiter, comment on peut la recevoir, comment s'en méfier, comment vérifier ses sources, comment ne laisser personne nous dicter des idéologies ou des conditionnements sans les mettre à l'épreuve de ce que nous sommes et de ce que nous ressentons. Donc ça, c'est évidemment central, mais en même temps, c'est assez curieux que cette éducation à des aspects très intimes de nos vies personnelles émerge maintenant au moment où il y a le plus d'informations disponibles sur ces sujets. Peut-être nos grands-mères ne savaient même pas ce que c'était que les règles parce que personne ne leur avait expliqué. Aujourd'hui, c'est rarissime qu'un jeune ou qu'une jeune personne ne sache pas ce que sont les règles, ne serait-ce que parce que les langues se sont beaucoup déliées, que la parole s'est libérée sur plein de choses et que, en rencontrant des camarades, on peut se faire une idée assez exhaustive de ce qui nous attend biologiquement, affectivement, sexuellement. J'observe vraiment que ces aspects de notre vie humaine ont très peu de secrets pour les jeunes d'aujourd'hui qui sont surinformés. Donc, quel serait l'intérêt de l'État à pouvoir orienter l'intérêt des enfants et les nourrir l'intérêt des enfants pour ces aspects-là? Alors, outre le fait de vouloir peut-être endiguer des problématiques de violence, de rejet, de discrimination, de violence systémique qui seraient liées à l'évolution de notre société et donc à la nouveauté des genres, à la nouveauté des pratiques, à la nouveauté de l'organisation sociale, de la systémie familiale qui a complètement changé en quelques années, des droits aussi et des devoirs qui ont changé ou qui sont en évolution. Donc, vouloir informer ou endiguer peut-être les réactions par rapport à ça, d'accord, c'est une chose. Mais au-delà de cela, ce que j'y vois personnellement, c'est que s'il y avait tout simplement un accompagnement au respect, à l'empathie, à la communication non violente, à la reconnaissance de l'autre dans ce qu'il vit, à l'écoute active, à toutes ces notions qui sont inexistantes dans les formations des maîtres, des enseignants et qui ne sont pas au centre du projet pédagogique de l'école d'aujourd'hui. Parce que ça serait pour moi largement suffisant de juste avoir des espaces de médiation, des espaces de concertation qui permettent aux enfants et aux adolescents de se rencontrer sur qu'est-ce qui pourrait les blesser, qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui est vivant dans la relation avec les autres. Donc de créer de l'espace autour de ça pour qu'eux-mêmes puissent apporter leurs besoins au centre des relations et non pas qu'on leur impose un programme qui est déconnecté de leurs questionnements et de leur réel et qui non seulement est déconnecté mais en plus vient forcer la porte de quelque chose qui s'appelle l'intimité. Et ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce que ça s'appelle du viol. En fait, forcer l'intimité, ça s'appelle du viol. Moi, ce que j'ai vu lorsque j'avais organisé quelquefois des rencontres avec le planning familial, quand j'étais directrice d'école, ben, c'est que certains enfants, même assez âgés, à 11-12 ans, n'avaient pas du tout envie qu'on leur parle de corps, de sexualité, de rapports amoureux. Et comme dans notre école, ils étaient libres de participer ou pas, eh ben, il y avait toujours une proportion de jeunes et d'enfants qui ne voulaient pas qu'on leur parle de ça, qui ne souhaitaient pas aborder ce sujet, parce qu'ils n'étaient tout simplement pas prêts, que ce n'était pas leur demande. D'ailleurs, c'était tellement apprenant pour moi en tant que directrice que j'ai cessé de faire venir le planning familial, qui pour d'autres raisons m'a agacée en plus parce que je le trouve très militant et je trouve pas que ce soit le rôle du planning familial, de militer. Je trouve que ça devrait être un enseignement ou plutôt de répondre, d'être un espace où l'on peut répondre aux questionnements qui sont vivants chez les enfants ou chez les ados, mais pas être militant pour telle ou telle pratique, telle ou telle forme affective et sociale. Bref, ces enfants qui ne veulent pas ou qui se bouchent les oreilles quand vous parlez de sexualité, qui n'ont pas envie d'entendre ça, que ressentent-ils et quel est le besoin? Il y a vraiment un besoin de respecter un espace qui est hyper précieux chez l'humain et qui s'appelle l'intimité. De quel droit on se permet d'intruser l'intimité de quelqu'un et encore pire, d'intruser l'intimité de toute une génération? Alors, je ne vais pas aller en détail sur les contenus du livret Evras, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont hyper alarmantes. Il y a un site également qui est conçu par l'Éducation nationale à destination des jeunes à partir de 11 ans et qui, pour moi, est vraiment l'expression d'une société complètement à la dérive, en fait, sur ces questions-là. Par exemple, sur ce site qui s'appelle, je crois, On s'explique, je vous invite à aller faire votre recherche. Il est question de sexualité sur ce site et on vous fait par exemple des planches anatomiques pour vous montrer toutes les postures possibles pour les relations sexuelles anales, voilà, pour la sodomie. Il y a une planche avec le nom des positions à destination des enfants, quoi. Et là, un autre exemple, il y a aussi la description de toutes les pratiques génito-buccales, avec leur nom, leur description, toutes les manières de prendre du plaisir sexuellement, enfin, la masturbation, les façons d'être en lien avec les corps entre nous, les humains. Et je trouve ça terrifiant, parce qu'en fait, au fond, ce que ça fabrique, c'est du consentement chez l'enfant. C'est-à-dire qu'on banalise, on rend technique, on met du vocabulaire, un vocabulaire qui doit rentrer dans le langage courant, toutes ces pratiques sexuelles qui sont réservées à l'adulte, ou pour le moins à l'adolescent qui se sent suffisamment mature pour se sentir concerné par tout ça. Et je pense que c'est un peu la première fois dans l'histoire que. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire à vérifier, mais que l'État rend public et vulgarise à ce point l'intimité sexuelle de ses concitoyens. Moi, je vous invite vraiment à réfléchir à ce que cela signifie pour un peuple, pour une nation, pour des représentants du bien commun. L'enfant à qui on aura expliqué une fois, deux fois, trois fois, 10 fois dans son parcours scolaire ce que c'est que la masturbation, ce que c'est que la sodomie, ce que c'est que la fellation, ce que c'est que le plaisir, l'orgasme. L'enfant qui aura été sollicité dans ses sentiments, ses ressentis, sa sensorialité, même si c'est une sollicitation intellectuelle, eh bien, il est exposé à considérer que ces actes-là sont des actes normaux, et ils le sont pour partie, évidemment, en tout cas pour celui qui les pratique, pour l'adulte consentant ou le majeur sexuel consentant qui les pratique, ils le sont. Mais dans la vie d'un enfant, toute cette connaissance qui ne le concerne pas directement et qu'on lui déverse contre son gré, vient lui apprendre à investir un champ de la réalité qui, a priori, ne le concerne pas ou peu, ou s'il est concerné, c'est vraiment dans l'intimité de son être. Et ça ne regarde personne, en fait. Qu'un enfant se caresse, qu'il découvre des zones érogènes, qu'il tombe amoureux d'un autre enfant, ou qu'il ait des pensées sur la sexualité, ça, qui est-ce que ça regarde, en fait? À part lui, à part peut-être ses parents, son entourage ou des personnes avec qui il va se sentir en grande sécurité et en intense confiance pour pouvoir peut-être poser ces questions. C'est de cela qu'il s'agit. Et c'est cela qu'il s'agit de préserver. Dans le cas contraire, en fait, on fait vraiment, par cette effraction psychique, on fait vraiment le lit de la pédophilie, de la pédocriminalité. Et non seulement on fait son lit, mais en plus on la détourne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va pouvoir considérer que l'enfant est pris dans ces rouages toxiques en connaissance de cause, parce que il est informé de ce qui se pratique, de comment les adultes peuvent agir, comment est-ce qu'ils peuvent vivre sexuellement, etc. Donc ça rentre dans le champ du connu, ça se banalise, ça se vulgarise, et à un moment donné, ça peut même créer du consentement. Et ça, c'est terrible. Parce que lorsqu'on va solliciter un enfant dans des espaces qui ne le concernent pas, pour lesquels il n'est pas mûr, mais on vient lui parler de tout le merveilleux qu'il y a dans ses actes, qui donnent du plaisir, qui sont sensationnels au sens premier, c'est-à-dire qu'ils vont créer beaucoup de sensations, qu'on va lui présenter cela comme une dimension majeure de la vie humaine. Donc on va l'intéresser à la sexualité, à un endroit où il n'avait rien demandé, parce qu'il tout simplement... si on suit les lois naturelles de développement, il n'était pas du tout prêt à cela. Eh bien, peut-être on va créer un intérêt artificiel qui va le pousser peut-être à dire oui à des endroits où il aurait fallu dire non, à se laisser explorer des gestes et des pratiques qui ne sont pas de son âge, mais qui sont devenus connus. On ne doit pas laisser nos enfants dans cette situation, de mon point de vue. Un autre effet de cette éducation à la sexualité, c'est comment ça rend technique, âpre et banale cette dimension de l'être humain qui est tout sauf ça en fait, qui est vraiment dans la rencontre la plus impliquante qui soit, qui a besoin de retrouver un espace sacré, un espace qui est infranchissable par quiconque en dehors de... du sentiment et de l'élan intime qui peut pousser un être à aller rencontrer un autre être au niveau sexuel. Et de voir cet aspect de nos vies étalé sur des planches, des tableaux, des listes, des cours et des programmes, c'est vraiment abîmer de manière systémique et systématique une poétique, une dimension invisible, indicible et extrêmement personnelle de ce qui peut nous arriver dans une vie humaine et qui n'a pas besoin d'être envahi par un champ lexical, du vocabulaire, des idées scientifiques ou techniques. Parce que la littérature le fait déjà, parce que l'art le fait déjà, parce que le cinéma le fait déjà, mais de manière beaucoup plus appropriée parce qu'elle vient solliciter l'émotionnel, elle vient solliciter le sentiment, elle vient solliciter la poétique, le sens. Le sens et même une dimension spirituelle. Parce que choisir un être pour la vie ou pour juste partager un temps de vie significatif et choisir de partager nos corps ensemble, de partager notre plaisir intime et sexuel avec une personne, c'est quelque chose qui est porteur de sens. Pour beaucoup de gens, c'est vraiment même au centre d'une existence. Et l'éducation nationale n'a pas le droit de se l'approprier, en fait, cet espace-là. Pas de cette manière-là. Pas de manière aussi vulgaire. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour tous les enfants qui vont devoir subir ces cours. J'ai de la peine aussi pour tous les enseignants qui vont se sentir le devoir de transmettre ce que peut-être eux-mêmes n'ont pas fini d'explorer. Parce que lorsqu'on est un adulte, ça n'est pas dit, et malgré le nombre d'années de pratique que nous sommes compétents sur ces domaines-là, c'est tellement complexe, tellement complexe. Donc ce que je recommande, et ce que je mets en œuvre lorsque je suis directrice d'école, ce qui peut-être m'arrivera encore prochainement, dans les prochains mois, c'est vraiment de laisser venir les questions des enfants, de les laisser libres d'étudier, de questionner, de rechercher, de se faire accompagner dans la confiance avec les personnes de leur choix sur l'ensemble des thématiques qui les concernent, mais encore plus sur des thématiques aussi intimes et personnelles que la vie affective ou la sexualité. Et ce que je recommande également, c'est vraiment de soi-même, qui avons affaire à des enfants, de s'occuper de soi en fait, de s'occuper de soi, de s'occuper d'être des adultes responsables, intègres, harmonieux, de s'occuper de sa propre vie affective qui va forcément rejaillir sur l'enfant de manière naturelle et inspirante, et de s'occuper d'être épanoui sur tous les plans qui nous constituent. Et là aussi, l'enfant va bien sûr le ressentir et s'en inspirer. Moi, si j'avais le pouvoir de faire une demande au gouvernement sur ce sujet, c'est vraiment de supprimer ce projet et de laisser plutôt davantage de place à la relation, à une vraie relation authentique. À l'école, une relation qui ne soit pas un rapport de force, un rapport de pouvoir, un rapport de jugement, mais qui puisse s'exprimer, comme je disais tout à l'heure, dans l'empathie, dans la rencontre, dans une rencontre équivalente d'être à être, où on peut apprendre à dire ses besoins, à poser ses limites, à donner et recevoir de l'empathie pour ce qui nous arrive. Et mon expérience, c'est que lorsque les enfants sont accompagnés avec cette qualité relationnelle, il n'y a plus besoin de faire de cours de relations et de vie affective. En fait, on est sans arrêt en train d'essayer de mettre des pansements sur une jambe de bois, c'est-à-dire on crée un problème comme le harcèlement à l'école ou la violence qui va se systématiser ou des enfants qui sont tellement abîmés qu'ils doivent consulter le psychologue. Dans une interview récente de Macron avec Hugo, le youtubeur d'Hugo Décrypte, Macron explique qu'il n'y a pas assez de psychologues à l'école et autour des écoles, qu'il en manque et que c'est vraiment dommage qu'il manque autant de psychologues. À aucun moment il dit qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de jeunes qui sont déglingués au point qu'il y en a un sur cinq qui est diagnosticable en fait dans une détresse psychique. Non, il ne dit pas ça, il dit, ah mais quel dommage que nous n'ayons pas assez de psychologues, il faut vraiment relancer la vocation de psychologue ou de psychiatre pour pouvoir accueillir tous ces jeunes qui vont pas bien. Et je me demande ce qu'on peut attendre d'un président qui s'exprime comme ça et qui remet pas du tout en question le système dans lequel nous immergeons nos enfants au quotidien et qui continue de plâtrer grossièrement toutes les brèches où le paquebot fuit, quoi, où il est en train de prendre l'eau. Ce programme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, il fait vraiment partie de ces gros emplâtres que l'on met maladroitement pour essayer de colmater une réalité qui nous échappe complètement, quoi, et qui fait que on a des jeunes qui sont en perte de repère totale et qui sont complètement chaotisés sur un plan affectif, familial, personnel, intime, et qu'on va continuer de chaotiser en prenant des mesures telles que ce programme. Vraiment, nos enfants, expliquons-leur ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, faisons de la prévention et amenons-les dans des pratiques et une conscience qui vont leur permettre de s'extirper de certains projets que des décideurs peuvent avoir sur nos enfants, sur ces générations qui grandissent. Parce que c'est extrêmement dangereux. Voilà, je pense que j'aurai l'occasion dans un prochain podcast de revenir sur tout ça, peut-être avec un peu plus de recul et d'éléments de compréhension, parce que je lis beaucoup sur ces thématiques, je me tiens informée et je vois que de plus en plus de personnes s'expriment. Puis je suis curieuse et attentive de voir où tout cela nous mène. Voilà, sans non plus y perdre mon énergie parce que mon énergie, j'ai pas envie de la mettre à combattre ce que j'estime être délétère, mais plutôt à construire et à donner de la force et à rendre visible et émergent des projets qui sont vraiment dans l'accueil et l'accompagnement de l'humain, d'un humain respecté. Merci de m'avoir écouté.